Bonjour frères et sœurs. Au début du livre de Josué, l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël, campe à un endroit appelé Sittim. Sittim, sur le côté est du fleuve du Jourdain. À quelques kilomètres au-dessus du fleuve se trouve la ville de Jéricho. Reportons-nous Josué chapitre 1. Et entre-temps, saviez-vous que l'arche de l'Alliance était faite de bois de Sittim? De bois de Sittim.
C'est un bois d'acacia, un bois d'acacia qui veut dire, dans une traduction, Sittim. Intéressant. Josué n'était plus un espion à cette époque. Il commandait maintenant l'armée et le peuple d'Israël. La première fois qu'il est venu traverser ici, c'était il y a 40 ans, n'est-ce pas, avant cette époque, avec Caleb et 10 autres. Ils avaient traversé, ils étaient allés voir l'endroit où où Dieu, où l'Éternel voulait donner à son peuple. Mais malheureusement, le peuple n'était pas prêt à entrer en terre promise. Considérons maintenant ce qui se passe ici au début du livre de Josué, chapitre 1 et versets 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Que je donne aux enfants d'Israël. Très important à souligner que ce n'est pas Josué qui a donné cette terre à Israël. Ce n'était pas la force d'Israël qui a fait que cette nation puisse envahir et conquérir et dominer et puis habiter dans cette terre promise, mais c'était la force de l'Éternel. Donc, après avoir décrit dans les versets suivants cette terre et les limites de cette terre qu'il donnait à cette nouvelle génération et leurs descendants, bien sûr, l'Éternel prononce ces paroles d'encouragement. Versets 8 à 9. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Wow, quelle parole d'encouragement! Si on avait ça en tête aujourd'hui, à chaque moment, quand on fait face aux épreuves les plus difficiles, aux choix les plus difficiles, ou aux moments les plus difficiles de la vie, ou même les plus importantes, quel encouragement ces paroles, en fait, ont porté à plusieurs personnes qui croient en Dieu. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Pour l'Église, nous pouvons aujourd'hui se souvenir de ces paroles destinées à Josué, mais destinées aussi, bien sûr, à tous ceux qui vont suivre ce livre de la loi, qui vont suivre la parole de Dieu, qui vont suivre Dieu, l'Éternel, Jésus, Dieu le Père et Dieu le Fils. Nous savons que le chapitre 2 décrit comment Josué a envoyé deux hommes pour espionner, pour explorer le pays, en particulier autour de Jéricho. Nous apprenons que ce n'était pas un secret non plus pour le roi de Jéricho. Rahab mentionne qu'ils avaient déjà peur, ils avaient déjà vu ce qui se passait avec cette nation qui montait vers eux. Et ils avaient déjà peur de la possibilité que eux ici aussi soient conquis par cette nation et leur Dieu. Nous apprenons que ce n'était pas un secret du tout, et peut-être avait-il, ce roi, surveiller cet énorme groupe de personnes et leur armée depuis un certain temps. Il n'était pas loin de sa ville, et cet endroit de Sittem n'était qu'à quelques kilomètres du Jourdain, de l'autre côté du fleuve. Le cours du Jourdain, la direction du fleuve entre le lac de Galilée et la mer Morte, se fait par une sorte de ravin dans un ravin. Le ravin extérieur est la vallée ou la plaine du Jourdain, maintenant appelée par les Arabes El Gor, qui a environ 6 miles de largeur à sa partie nord et beaucoup plus à sa partie sud où se trouvaient maintenant les Israélites, cette partie sud du fleuve. Et donc, dans ce El Gor se trouve un ravin plus étroit d'environ 3/4 de mille de largeur, dans la partie intérieure duquel coule la rivière et sa largeur variant de 20 à 60 mètres. Donc, cette armée d'Israël, cette foule, cette grande multitude d'Israël campée à Sittem, dans cet endroit, et quelque part dans cet endroit, près des montagnes, des champs de Moab. L'endroit exact est inconnu, mais il était près du pied des montagnes moabites, où les ruisseaux descendaient des hauteurs en route vers le Jourdain. Et eux, ces ruisseaux, ont provoqué une croissance luxuriante d'arbres acacias, comme on en trouve encore, d'après certains commentaires, dans certains endroits, même aujourd'hui. Cet arbre se trouve encore dans cette région. C'est pendant qu'Israël demeurait à Sittem, à l'époque de Moïse, qu'ils furent séduits par les Moabites pour se joindre à leur réjouissance idolâtre de Baal-Péor, et ils étaient punis de la peste. Ce châtiment, apparemment, les avait amenés dans un meilleur esprit, et maintenant, cette génération nouvelle était préparée pour traverser le Jourdain. Le Jourdain n'était pas alors traversé par des ponts, n'était pas traversé par des bacs. Le seul moyen de traverser, c'était les guets. C'était la seule façon de traverser le Jourdain à cet endroit. Lorsque les espions ont traversé la rivière, bien sûr, c'était en nageant, n'est-ce pas? Car elle était trop profonde pour pâturager à l'époque. Mais si ce mode de traversée était possible pour les individus, il n'était pas de question que le peuple entier traverse en nageant. Vous imaginez que tous les âges, toutes les différentes états de santé même, et puis tous les troupeaux, vous imaginez que toutes ces grosses foules traversent comme ça? Non, ce n'était pas question de traverser. Donc, est-ce que ça vous fait penser un peu de ce qui s'est passé quand l'armée du Pharaon poursuivait les enfants d'Israël avant la traversée de la mer Rouge? Il y a quelques parallèles qui existent, bien sûr. Et même, on va y revenir, mais même dans les psaumes, il y a dans certains endroits, les deux traversées sont mentionnées quasiment dans les mêmes passages. Donc, ce moment, cette époque, cette traversée fut vraiment important pour Israël, pour qu'ils soient au courant et pour qu'ils se souviennent de la main de l'Éternel qui va, on va voir, intervenir pour eux. Donc, c'était pas possible de simplement traverser ici. Et peut-être même on suggère que les armées de Jéricho se reposaient en sachant que ce peuple ne traverserait jamais facilement pour venir dans notre région. On peut estimer qu'eux, ils sentaient peut-être un peu plus à l'aise de voir qu'au moins les armées d'Israël étaient encore sur l'autre bord de la rivière, du fleuve. Mais le jour fixé pour quitter Sittim est venu, et Josué, déterminé à ne pas perdre de temps, s'est levé tôt le matin. Lisons maintenant chapitre 3. On va sauter le chapitre 2, c'est tellement connu, cette histoire de Rahab et les espions. Mais je voulais accentuer, souligner ce qui se passe ici quand Josué avait pris décision avec l'aide de Dieu. Il a suivi l'ordonnance de Dieu pour cette traversée du Jourdain. Josué s'est enlevé de bon matin, verset 1, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Et, il faut se souvenir que des fois, certains versets, certains passages ne sont pas exactement dans l'ordre chronologique. Des fois, on résume une partie et on va détailler cette partie après. C'est ce que je pense est le cas ici. Et puis, verset 2, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs des Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Donc ça, c'était les officiers qui annonçaient 2 commandements, 2 ordres, si vous voulez, au peuple. Mais on va y revenir maintenant. OK, Sittim ici, encore une fois, c'est un endroit difficile à traverser. Et puis, on voit que 3 jours sont à prévoir. Peut-être pour la préparation physique, peut-être pour la préparation morale ou spirituelle, et c'est un peu lié à ce que Josué va nous dire au verset 5 dans quelques instants. Mais ce qui se passe, c'est que tout le peuple d'Israël est impliqué dans cette traversée. Tout le monde est averti que dans 3 jours, tout le monde va traverser. Le groupe s'est rassemblé en rang, ordonné sur la rive est du Jourdain, lorsque les officiers passent pour donner des instructions quant à la suite de leur procédure. 3 instructions sont données. Nous avons déjà lu 2 de ces instructions, et puis donc revenons sur la première des instructions. Premièrement, ils sont obligés, ils doivent suivre l'arche de l'Alliance. Au moment qu'ils voient les prêtres, qu'ils le portent en mouvement, ils doivent quitter leur place et le suivre. Il n'y avait plus de colonnes, de nuées ou de feu pour les guider. C'était un symbole maintenant du passé, un symbole du désert, de la présence de Dieu. Maintenant, ce symbole était remplacé par quelque chose un peu plus permanent, visible, l'arche de l'Alliance qui est passée devant eux. Ces 2 symboles représentaient la même grande vérité. Et c'est cette vérité que je voudrais souligner aujourd'hui. La présence et la direction de Dieu. Et tous deux, les 2 symboles, appelaient les gens aux mêmes devoirs et privilèges. Et à la même assurance de sécurité absolue tant qu'ils suivaient l'Éternel. Maintenant, un symbole différent est proposé, l'arche, portée en procession solennelle par les prêtres, et maintenant le symbole désigné de cette présence, de cette direction, si vous voulez, de Dieu. Et donc, l'objet à suivre, sans hésiter. Une vérité pour nous tous était clairement ombragée ici. Suivez Dieu implicitement et sans hésitation à chaque moment, même s'il y a du danger, et vous êtes toujours en sécurité. Mettons de côté, alors, les conseils de la peur et de la sagesse du monde, et mettons avant nous l'arche de l'Alliance, ou la présence de Dieu. Donc, pour nous, l'arche n'existe plus pour nous. Donc, mettant devant nous la présence de Dieu, suivant qu'il y ait un bon rapport ou de mauvais rapport de ce qui va se passer devant nous. Si nous suivons la présence de Dieu, nous allons avoir raison. C'est ainsi que Josué et Caleb avaient fait et avaient conseillé à toute la nation d'Israël à faire lorsqu'ils revinrent découvrir le pays il y a 40 ans avant. Et puis, maintenant, ces deux hommes allaient récolter leurs fruits, le fruit de leur fidélité à Dieu. Parce que les autres, l'autre génération, qui auraient été confortablement installés ces 40 ans après dans le pays, s'ils avaient fait de même, ils avaient maintenant péri dans le désert à cause de leur incrédulité. Donc, en deuxième lieu, les officiers et Josué implicite ordonna une travée de 2000 coudées. 2000 coudées qui devaient être laissées entre le peuple et l'arche de l'Alliance. Certains ont pensé que cela avait été conçu comme un signe de révérence, mais peut-être que c'est plus pratique que ça. Peut-être que l'intention, c'était que les gens voient de clair où allait l'arche. Si cet arrangement n'avait pas été fait, le cours de l'arche à travers les plaines plates du Jourdain n'aurait pas été visible à la masse des gens, mais seulement à ceux qui étaient en proximité. Le fait que tout le monde était capable de voir la traversée ou l'arche devant eux, c'était quelque chose à souligner ici. Dans tous les cas, lorsque nous recherchons la direction divine, la présence de Dieu devant nous dans nos choix, c'est de la plus haute importance qu'il n'y a rien qui puisse obscurer Dieu et sa volonté ou déformer notre vision. Donc, restons les yeux fixés sur la volonté de Dieu, sa parole, et pas à d'autres choses. Combien de fois laissons-nous nos préjugés ou nos souhaits ou nos intérêts s'interposer entre nous et la direction dans laquelle Dieu nous amène? À un certain moment de notre vie, nous rendons compte que nous ne devrions pas faire un seul pas sans demander des conseils de l'Éternel. Mais est-ce que c'est quelque chose que nous pratiquons 100% du fois des temps? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être toujours on a une habitude de prendre plein de pas avant de demander à Dieu de l'aide. Mais c'est quelque chose à développer pour chacun d'entre nous. Bien sûr, moi compris. Bien. Chaque fois qu'on passe d'une situation dans la vie à quelque chose de nouvel, des fois, on va se dire, ah oui, c'est une situation nouvelle pour moi de comprendre et de faire des choix. Et pour prendre, au lieu de faire ça, une habitude, à se mettre aux genoux et demander en prière que la présence de l'Éternel va en avant. Qu'on suit ses ordonnances, qu'on suit sa volonté et non la vôtre. Pardon, non la nôtre. Donc, laissons toujours cet espace clair entre nous et Dieu lorsque nous allons lui demander son conseil. Parce que dans le cas d'Israël, il fallait qu'il voie où traverser. Si chacun avait choisi aller dans un sens ou dans un autre pour la traverser, il n'aurait pas pu traverser le Jourdain. Ils auraient dû, après, se dire, oh, c'était pas possible. Et puis, ils n'auraient pas vu le miracle qui allait se passer ici. Et on va y arriver bientôt. Donc, troisièmement, d'après Josué 3 et le verset 5, lisons ce verset d'abord. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Si vous pensez à tout ce qui s'est passé avec la nation d'Israël, Dieu est en train de les séparer des nations du monde, de les donner une terre promise, de les donner un endroit pour eux, de faire un peuple pour lui. Maintenant, Josué rappelle au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Intéressant que la sanctification et l'arche de l'Alliance sont très, très étroites, les deux idées. Même le prêtre qui allait s'approcher, le grand prêtre qui allait s'approcher de l'arche une fois par an, lui aussi, il avait besoin de se sanctifier avant d'entrer dans le lieu très saint. Et maintenant, Josué demande au peuple de faire la même chose. C'est un peuple complètement différent vis-à-vis du peuple qui allait traverser la mer Rouge. Les cris, les doutes, les rébellions, les choses comme ça ne sont pas du tout mentionnées ici dans ce passage. On peut peut-être même dire que ce peuple a été purifié dans un sens, qu'ils avaient quitté les mauvaises habitudes que Israël avait développées pendant plusieurs centaines d'années en Égypte. Cette génération, plusieurs, avait même vu depuis des années les miracles du désert. Ils vivaient en ce moment encore sur la manne que Dieu allait donner. Ils vivaient encore. Mais on va voir, et quand on lit le livre de Josué, on voit cette transition. Cette transition de ce que ça veut dire d'entrer en terre promise. La manne va s'arrêter. Les récoltes étaient déjà prêtes pour Israël quand ils sont entrer en terre promise. Très intéressant que Dieu avait tout préparé pour ce peuple. Et la transition comme ça, d'un désert, d'une certaine souffrance physique, de ne pas avoir un pays pour eux, comment un peuple va s'appeler une nation s'ils n'ont pas un pays, hein, s'ils n'ont pas une terre, des limites. Et aujourd'hui, nous avons quand même les résultats de plusieurs centaines d'années de problèmes entre les Palestiniens et les l'Israël, parce que ce peuple palestinien voudrait une partie, beaucoup plus, de cette terre. Ils disent qu'ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de terre. Il y a un conflit pour cette terre. Mais aujourd'hui, quand on considère Josué, on voit une situation maîtrisée par Dieu, que lui, sans problème, il va donner, il a le pouvoir de donner une terre à sa nation. Très important que le peuple reçoive cette instruction de se sanctifier. Nous ne pouvons pas attendre une réponse à Dieu, de Dieu, pour nous aider, pour nous secourir, si nous ne sommes pas prêts à préparer, à se sanctifier, à se soumettre à ses commandements. Comment est-ce que quelqu'un qui continue, qui ne fait pas l'effort pour changer, comment est-ce que cette personne peut attendre que Dieu réponde toujours à ses prières? Donc, ici, nous avons toute une nation impliquée dans cette traversée, tout un peuple qui doit se préparer pour un grand événement. Donc, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour l'aide de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts quand Dieu va nous bénir avec une réponse? Est-ce que nous allons continuer à faire ce que nous avons lu dans Josué 1, l'idée de continuer toujours d'obéir à Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche, de ta bouche. Des fois, quand on reçoit une réponse, quand on n'est plus dans le besoin, on ne pense plus à ce qu'on doit faire. Et c'est bien plusieurs fois en Deutéronome que l'Éternel avertit le peuple que dès que vous entrez dans cette terre que je vais vous donner, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, vous allez dire, qui a fait ceci? Nous l'avons fait nous-mêmes. Et c'est exactement ça qui s'est passé éventuellement. Mais cette génération, en ce moment, est très intéressante parce que cette génération est prête à hériter cette terre promise. Cette génération est prête à suivre les commandements, les ordonnances de Dieu et même prête à suivre Josué et ses officiers. Maintenant, Josué 3, le verset 6. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Donc, ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Donc, il a dit et ils l'ont fait. Si on considère que deux fois seulement dans ce livre, l'arche de l'Alliance est associée à des événements miraculeux, ça souligne l'importance de cette traversée. La prise, la traversée, et puis après, la deuxième fois, c'est la prise de Jéricho, si vous vous souvenez. Ils ont fait le tour de Jéricho plusieurs fois, et puis avec l'arche. Donc, deuxième fois, c'est à Jéricho. Ici, c'est la première fois que l'arche de l'Alliance est bien mentionnée. Pourquoi sa présence est limitée au Jourdain et à Jéricho? On ne sait pas exactement, mais peut-être juste pour souligner l'importance que ce soit Dieu qui guide le peuple, que ce soit Dieu qui a la main à cette situation. Et intéressant, la prise de l'arche par les prêtres, c'était une étape décisive. Il ne pouvait plus y avoir d'hésitation. Maintenant, les prêtres avec l'arche doivent avancer. Et on verra si Josué a prononcé des paroles vraies, véritables, ou s'il prononce quelque chose qui ne va pas avoir lieu. Est-ce qu'on va voir la force, la puissance de l'Éternel dans la suite? Verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Donc, il y avait aussi une autre raison pour laquelle c'était important que l'Éternel fasse ce qu'il va faire. C'est pour donner une certaine confirmation pour le peuple que Josué était bien guidé par Dieu. Donc, très intéressant qu'on a un événement miraculeux qui va avoir lieu devant les yeux de tout Israël. Continuons maintenant au verset 8. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Quoi? On va s'arrêter dans le Jourdain? Déjà, l'idée de traverser le Jourdain à pied, si on pensait à la géographie que je vous ai déjà mentionnée, c'est déjà quelque chose difficile à imaginer. Sans nager, maintenant on va porter l'arche de l'Alliance, mais ils n'ont pas monté une rébellion. Les sacrificateurs ont suivi l'ordre de Josué qui est venu de Dieu. Josué dit, verset 9, aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Canaéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Guergésiens, les Amoréens et les Jébusiens, tous ceux qui occupaient la terre promise. Voici l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre. Pas juste celui de Baal-Péor, celui de Moab, celui de Dieu païen, mais le Dieu de toute la terre. Va passer devant vous dans le Jourdain. Incroyable ce qui se passe ici, l'intervention de Dieu. Mais il avait déjà un objectif. Il avait une raison qu'il voulait le faire. Il voulait que les enfants d'Israël voient et reconnaissent que le Dieu vivant était au milieu d'eux. Combien de fois allons-nous oublier que la présence de Dieu est ici? Est-ce que nous sommes conscients? On ne se demande pas d'enlever les chaussures quand on va entrer, mais on demande bien dans les prières d'ouverture souvent que la présence de Dieu soit avec nous. Et bien sûr, nous avons en nous cette présence par l'Esprit Saint aussi. Nous avons la possibilité que Christ vit en nous par cet Esprit en nous. Donc, nous sommes censés être comme un temple sanctifié, comme Josué a demandé avec le peuple d'Israël de faire, de se sanctifier, d'être capable et digne de porter pour nous cet esprit, ou pour eux, d'être digne de passer à côté de l'arche de l'Alliance. On pense à Moïse, on pense à plusieurs qui ont demandé de voir la gloire de Dieu, en particulier pour voir sa gloire, pour avoir cette sensation que sa présence était réelle et de comprendre ce que c'était cette sensation, cette présence de l'Éternel. Et donc, nous avons maintenant la traversée parce que c'est Dieu qui va en avant. C'est Dieu qui va en avant. Par le symbole de l'Arche de l'Alliance, c'est Dieu qui va en avant. Maintenant, verset 12, « Prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent en haut et elles s'arrêteront en un morceau. » Wow! Ça, c'est le miracle que nous attendons pour cette traversée de toute la nation, à part de ceux qui allaient rester de l'autre côté, bien sûr. En fait, il ne faut pas oublier qu'il y avait une partie des tribus qui allaient rester de l'autre côté. Mais même leurs hommes de l'armée allaient traverser pour aller rendre service à ceux qui allaient gagner la terre promise. Et c'est détaillé plus loin dans le chapitre ici. Mais nous avons maintenant cette vérité, c'est que Dieu est avec ce peuple. Dieu se révèle au peuple dans une autre façon, avec ce miracle. Et le peuple est censé le traverser tous ensemble, en suivant le commandement de l'Éternel donné par Josué. Donc, très intéressant ce miracle. Le peuple sortit, verset 14, de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple, juste tout comme prévu. Verset 15, « Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés, au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tarsin, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, qu'on appelle la mer morte aujourd'hui, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain. Ce n'est pas un barrage qu'ils avaient construit. Ce n'est pas leurs pieds. Ils n'avaient pas de gros pieds qui s'arrêtaient à le fleuve, non. C'était, ils marchaient sur le sec. Est-ce que ça vous fait penser à la traversée de la mer Rouge? Mais un peuple tellement différent, un peuple tellement différent, un peuple que Dieu avait estimé était prêt à entrer dans la terre promise. L'autre peuple avaient démontré qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils ne voulaient pas mettre leur confiance en Dieu. Intéressant que Dieu ouvre ce chemin pour traverser cette rivière, le fleuve du Jourdain. Considérons maintenant le fait que dans l'Ancien Testament, nous trouvons des exemples de cette provision de Dieu, de cette miséricorde de Dieu, de cette intervention de Dieu. Considérons le psaume 136. C'est un psaume avec un refrain. C'est un psaume que nous devrions reconnaître dès que je commencerai à lire quelques versets, parce que c'est un psaume qui touche à un sujet que souvent on dit l'opposé. On dit qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament qui est mauvais, que Dieu n'a pas d'amour dans l'Ancien Testament, qu'il va réagir avec haine, avec beaucoup de mauvaises choses. On va critiquer la Bible, on va critiquer Dieu dans ce sens. Mais si nous lisons le psaume 136, j'y arrive, nous voyons de plusieurs fois, il est bon. Ça commence avec « Louez l'Éternel car il est bon ». Et puis, plusieurs fois, nous avons ce même refrain, « Car sa miséricorde dure à toujours ». Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Et puis, plus loin, se sont mentionnés certains événements qui ont eu lieu dans l'histoire de la nation d'Israël. Très intéressant que ça souligne la création d'abord, puis ça souligne au milieu de ce psaume toutes les armées qui ont été battu par Dieu pour Israël. Et puis, en héritage, c'est mentionné que nous avons l'entrée dans la terre promise même mentionnée. Nous avons déjà lu en Josué dans les versets 9 à 11, non, 9 à 10, que les Amoréens, que les Cananéens, les Héthiens et tous étaient mentionnés. Et maintenant, nous avons dans le verset 19, par exemple, Sion, roi des Amoréens, fait partie de cette liste des grands rois que l'Éternel est frappé. Verset 17, celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Et puis, il y a des exemples. Et c'est Dieu qui a fait possible l'entrée en terre promise. Pour nous, nous acceptons que c'est Dieu qui l'a fait. Nous le savons déjà. Pour nous, c'est quelque chose ce n'est pas quelque chose de nouvel à comprendre. Nous savons que la main de Dieu était avec eux. Mais eux, pour eux, il fallait que eux, ils voient ces choses arriver. Il fallait qu'ils mettent leur confiance en ce qui n'était pas encore arrivé. Et plusieurs fois, après la sortie d'Égypte, le peuple de Dieu avait oublié l'intervention de Dieu. Et dès qu'il y avait un moment de questionnement, ils avaient repris d'autres dieux, repris d'autres habitudes. Ils avaient abandonné Moïse, ils avaient fait la vache d'or. Et donc, on voit une attitude d'abandonnement ici. Mais pour un peuple qui s'est sanctifié, comme Josué a dit, et qui était prêt à entrer, Dieu a œuvré, il a intervenu pour eux plusieurs fois. Et pendant plusieurs fois dans les siècles après, il intervient encore pour son peuple, même aujourd'hui. À nous de toujours s'assurer que notre vision, que notre regard soit sur sa volonté devant nous, sur sa présence devant nous et en nous. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Considérons maintenant, encore une fois, dans le troisième chapitre de Josué, le verset 10. verset 10, pardon, nous avons déjà lu le verset 10, mais le verset un peu plus loin, nous avons déjà lu le verset 10, so, c'était... Verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec. Donc j'avais déjà lu ça, désolé. Donc c'était comme ça que toute la nation est achevée, c'est mentionné, de passer le Jourdain. Ils n'ont pas pris leur propre chemin. Ils n'ont pas décidé, moi je vais nager, vous, vous pouvez attendre l'arche de l'Alliance, vous faites comme vous voulez. Ils se sont rassemblés et ils ont traversé comme un seul peuple, une seule nation. Et puis après, bien sûr, on va commémorer ce qui vient de se passer pour que les générations suivantes soient capables de réfléchir, de méditer sur l'importance de cette traversée et de tout ce qui suivait cette traversée. Donc, on a au chapitre 4, au verset 1, « Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, et puis donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres. » que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Donc 12 pierres pour représenter les 12 tribus. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Donc ça, c'était pour certaines mémoriales, une certaine commémoration de cet événement très importante pour la nation d'Israël. Donc, ce nouveau chapitre de l'histoire d'Israël commence maintenant. Ce chapitre de la main de Dieu qui intervient pour la nation, pour donner à cette nation cette terre promise. Cette terre qu'ils attendaient, qu'ils avaient entendue depuis longtemps maintenant. Imaginez 40 ans dans le désert, en s'attendant, sans savoir combien de temps on allait passer dans le désert, mais en entendant que Dieu va un jour nous donner quand même notre terre promise. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle ici entre ce que nous attendons pour l'avenir, au retour de Jésus-Christ? Nous ne savons pas exactement combien de temps ceci va prendre, mais nous sommes obligés de continuer avec patience et d'être prêts, lorsque le jour vient, d'être prêts à hériter ce que Dieu prépare pour nous. Donc, Dieu a pris en main la traversée du Jourdain et il a pris en main la conquête des armées de Canaan et il va rester avec ce peuple. Il va continuer à répondre à leurs demandes, à leurs prières. Il va continuer à guider Josué dans ses décisions. Lisons Josué 4 et le verset 10. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Donc, encore une fois, des fois, nous avons un événement mentionné plus tôt dans le chapitre et plus détaillé après, dans le même chapitre. C'est un détail maintenant de qui a traversé et comment ils ont traversé. Mais l'important pour nous, c'est que Dieu était avec eux. Dieu a fait le premier pas pour ouvrir cette possibilité. Et eux, ils étaient obligés de suivre. Ils étaient obligés de suivre. Dieu a confirmé la parole de Josué aussi. Il a confirmé sa parole en faisant ce miracle. Donc, c'était bien pour Josué d'avoir cette confirmation. Et le peuple a pu voir la main de Dieu intervenir pour eux. Donc, c'est 12 pierres très simples qui étaient extraites du Jourdain, qui représente le mémorial de cette grande délivrance, de ce nouvel début, ce nouveau début. C'était un nouveau départ pour la nation d'Israël. Ils allaient devenir vraiment une nation. Ils marchaient sur la terre qu'ils allaient hériter. Ils étaient à peine déjà en train de recevoir cette terre promise. Donc pour nous, dans l'Église aujourd'hui, nous avons la possibilité de réfléchir, de méditer sur l'importance de cette idée de laisser Dieu aller devant nous, aller en avant. Nous avons, il y a peut-être un an, nous avons parlé de ce que c'est l'arche de l'Alliance et ce qui se trouve à l'intérieur aussi. Nous avons parlé du fait que le décalogue, le pot de la manne et le bâton se trouvaient à l'intérieur et la signification de chaque élément. Donc c'était encore assez important que cette arche maintenant qui contenait ces précieuses pièces de l'histoire spirituelle d'Israël passe devant eux. Mais plus importante, c'était que la présence de Dieu allait devant eux. La présence de Dieu est beaucoup plus importante que l'arche elle-même, n'est-ce pas? Par conséquent, soyons certains que nous permettrons à la présence de Dieu de nous procéder, de nous précéder. Comment le faire? Alors, premier point, c'est attendant que Dieu passe devant nous. Attendant, c'est une question de patience, des fois. On ne peut pas simplement aller en avant en tout temps. Nous devons apprendre d'attendre que Dieu ouvre les portes, ou dans ce cas, très, très illustré, d'ouvrir la possibilité de traverser. C'est assez dramatique, ce passage. Mais dans plusieurs façons, dans plusieurs parties de notre vie, nous avons aussi des portes que Dieu peut ouvrir ou pas, les portes qui sont devant nous. Et avec ces portes, nous avons des choix à faire. Mais demandons à Dieu de nous montrer quel choix de prendre. Considérons le psaume 27. Le psaume 27. Je crois qu'on met beaucoup plus l'accent sur la traversée de la mer Rouge et on oublie la signification profonde de cette importante traversée du Jourdain. C'est pour ça que j'ai passé ce temps sur ce sujet aujourd'hui, qui était pour moi aussi une étude rafraîchissante cette semaine. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Voilà, ça, c'est quand même très, très parallèle à ce que nous avons lu dans le livre de Josué. Mais si nous allons attendre que l'Éternel intervienne ou qu'il passe devant nous comme ça, lorsqu'il y a quelque chose, une décision à prendre, alors espère en l'Éternel, c'est notre commandement. Fortifie-toi et que ton cœur ne s'affermisse. Nous devrions rester forts en cœur et on met notre espérance dans l'Éternel, pas en nous-mêmes, On peut avoir la confiance de soi, mais notre vraie confiance reste dans l'Éternel et son pouvoir, sa capacité d'intervenir pour nous. Encore un verset intéressant qui est très instructif, le psaume 37 et le verset 7. Le psaume 37 et le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Des fois, et c'est répété plusieurs fois dans les psaumes, on a l'impression que les mauvaises personnes, que le mal gagne dans ce monde. Mais ne t'irrite pas, c'est ce qui est indiqué ici. Il ne faut pas s'irriter quand on voit ces choses. On met notre confiance en Dieu, que lui, il va résoudre ces choses. Même les souffrances que nous voyons dans le monde aujourd'hui, on aimerait bien qu'ils s'arrêtent. Mais Dieu permet à ces choses d'arriver. Donc, ne nous irritons pas vis-à-vis de ces choses. Le mal et l'esprit de ce monde semblent gagner de temps en temps. Mais quand l'impossibilité est devant nous, Dieu est capable de faire sa volonté. Même dans l'épître de Jacques, nous avons un exemple ici d'attendre l'Éternel, d'attendre que Dieu soit devant nous. Donc Jacques chapitre 5 et le verset 7. Jacques 5 et le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. On voit encore cette idée des psaumes d'être affermi, de fortifier le cœur. Puis en Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4 et le verset 19, à notre Dieu Père et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 19, pardon, c'était verset 20. Et mon Dieu prouvera à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu va, il est compatissant. Selon sa richesse, il va nous donner ce qui est le meilleur pour nous. Donc, attendons qu'il passe devant nous. Si on saute dans la rivière, dans le fleuve, avant le passage, on ne peut pas profiter de sa main puissante. Deuxièmement, suivons Dieu et pas les hommes. Suivons toujours Dieu. C'était bien clair dans cet exemple que Dieu inspirait Josué dans ses paroles, dans ses choix. Quand je vous dis « ne suivez pas l'homme », je ne veux pas dire « n'écoutez pas du tout le ministère », par exemple. Ce que je veux dire, c'est notre ministère devrait être guidé par Dieu, n'est-ce pas? Donc, suivons Dieu en premier lieu, en tout temps. Nombre, chapitre 32. L'homme a tendance à mettre sa confiance dans les hommes. Et peut-être même la science, peut-être même d'autres choses. La philosophie, peut-être la logique, peut-être certains chercheurs. Mais suivant Dieu et pas les hommes. Nombre 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens dirent-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » On voit ici que dans Exode, on voit que suite à ce qui s'est passé avec cette rébellion, cette grande festin que le peuple avait fait, on voit que Moïse implore l'Éternel de pardonner ce peuple. Moïse ne pensait pas que c'était à lui de décider. Cet homme qui était le leader, qui était loin de l'Éternel, si vous voulez, implora à l'Éternel de faire un changement, de faire quelque chose. Il ne pensait pas décider pour lui-même. Donc c'est ce type d'homme qui met le choix entre les mains de l'Éternel, c'est lui qui va recevoir la réponse de l'Éternel, qui peut suivre l'Éternel. C'est nous, notre besoin pour nous tous de le faire, mais en particulier quand il concerne le ministère, l'Église de Dieu. Nous mettons notre foi, notre confiance dans l'Éternel Dieu. Nous demandons à lui de nous aider dans nos choix, de nous guider, de nous fortifier, de nous donner la sagesse de pouvoir accomplir sa volonté. C'est tout à fait ce que Jésus-Christ a fait vis-à-vis du Père aussi. On le voit très clairement en Jean 17, la prière très, très passionnante de Christ. On voit cette volonté de Dieu le Père qui est demandée. Il a fait la volonté et il demande au Père de protéger ceux qui étaient entre ses mains. Et puis, quand nous allons suivre Dieu, nous allons faire sa volonté. Jean 6 et le verset 38, nous faisons. Il faut oser des fois de faire la volonté de Dieu au lieu de simplement rester en place. Si peut-être les enfants d'Israël avaient toujours eu peur de traverser, ils auraient dit, non, peut-être en traversant, les eaux vont revenir. Donc j'ai trop peur de traverser. Je vois déjà dans les eaux que ça monte ailleurs, qu'il y a de l'eau qui accumule. Qu'est-ce qui se passe si toutes ces eaux commencent à se lâcher sur nous? S'ils avaient trop peur de suivre, ils n'auraient pas fait la volonté de Dieu dans ce cas. Dieu allait donner cette terre à son peuple. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu, Jésus-Christ dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons cet espoir en commun. Nous essayons d'attendre patiemment le retour de Jésus-Christ. Ce jour magnifique de voir la révélation des fils de Dieu. Nous pouvons apprendre de ce leçon aussi, d'après les 12 pierres qui ont été rassemblées, que c'est important aussi de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, de se rappeler de ce que lui a fait pour nous, de ne pas simplement oublier les bénédictions du passé quand on retombe dans peut-être un moment difficile. Je sais qu'il y a des crises qui nous arrivent, mais déjà, plusieurs fois, je me suis dit, il ne faut pas oublier les bénédictions du passé. Même si je traverse cette difficulté, je ne dois jamais oublier le bienfait qu'il m'a déjà donné, les bénédictions que Dieu nous a données. Peut-être en Ecclésiaste, nous pouvons lire ensemble le chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12. À la fin de ce livre, l'Ecclésiaste semble avoir un changement de cœur dans un sens. Ici, ce qu'il dit, c'est au chapitre 12, verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur, l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Et puis, ça continue. L'idée que je voulais souligner, c'est de se souvenir de notre Créateur, de se souvenir toujours de toutes les belles journées qu'il nous accorde, de tous les bons moments qu'il nous accorde. Je sais, quand on va perdre un proche, on pense à la perte souvent, mais on peut aussi réfléchir et méditer sur les bons moments passés ensemble. Finalement, méditons sur ce que Dieu promet de faire pour nous dans l'avenir. Romains chapitre 4, pour commencer. Peut-être à la traversée du fleuve, le Jourdain, le peuple ne s'attendait pas les miracles qui allaient avoir lieu. Peut-être qu'il n'était pas du tout capable d'imaginer que Dieu intervienne dans une telle façon. Même après avoir vu des miracles dans leur vie, même après avoir vu la manne, la colonne de feu et la nuée, et puis après avoir vu cette délivrance en terre promise, peut-être ils ne s'attendaient pas que les miracles seraient aussi flagrants, aussi visibles, aussi magnifiques. Et c'est un peu ça dans notre imagination, de notre compréhension de la vie qui nous attendent après le retour de Jésus-Christ. Nous avons la capacité aujourd'hui juste à peine d'imaginer la gloire que Christ voudrait partager avec nous en tant qu'héritier, non pas d'une terre, non pas d'un pays physique, mais un héritage éternel, la vie éternelle, et une partie, une place dans sa famille. Romains 4 et le verset 21. Romains 4 et le verset 21. Alors, on commence avec le verset 20. Non, pardon. C'est pas vrai. Romains 4 et le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. On parle de promesse. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On parle ici d'Abraham, l'exemple de la foi, le père de la foi dans un sens. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Puis, Paul continue plus loin en Romains 8, dans un passage très connu, mais qui devrait être souligné dans un sujet comme aujourd'hui. Quand on va lutter contre les armées spirituelles, et quand on va lutter à l'intérieur de nous contre les choses qui, les mauvaises habitudes qui devraient être complètement enlevées, on va penser peut-être à Romains 8, verset 31. Si nous avons les yeux fixés sur la présence de Dieu et sans l'importance de sa main, pas de notre propre force, mais de sa force. Verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'imagine qu'au moment de cette traversée du fleuve du Jourdain, Josué, les officiers, le peuple d'Israël avaient ça en tête. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'imagine que même 40 ans avant, Josué et Caleb avaient déjà cette logique en tête, cette compréhension de la puissance, la magnificence, l'importance de l'intervention de Dieu. Frères et sœurs, gardons à l'esprit ses promesses, gardons à l'esprit ce qu'il a déjà fait pour nous, gardons à l'esprit sa volonté qu'il révèle à travers ses commandements et sa loi. Gardons à l'esprit que nous suivons Dieu et pas des hommes. Et gardons à l'esprit de toujours laisser Dieu aller en avant de nous.